Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a 500 ans cette année, Martin Luther affichait sur la porte de l'église de la Toussaint de Wittenberg ses 95 thèses lançant le grand mouvement de la réforme. 500 ans plus tard, le pape François s'est rendu en Suède en octobre dernier, exprimant sa gratitude que la réforme ait contribué à donner une meilleure centralité de la Sainte Écriture dans la vie de l'Église, un chemin incroyable. Comment en est-on arrivé là? Quels ont été les sujets de différends entre catholiques et protestants? Et si le temps est à une telle réconciliation, à quoi sert encore le dialogue œcuménique? Voilà pour cette émission ce matin, donc sur les 500 ans de la réforme à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je reçois ce matin donc Mino Randria, vous êtes pasteur de l'église protestante unie au temple du Salin ici à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et le père Jean-Jacques Rouchy, plus connu de nos auditeurs, qui est délégué diocésain au dialogue œcuménique.
Bonjour.
Peut-être faut-il dire un mot en introduction de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui court donc toute cette semaine. C'est un grand rendez-vous annuel.
Hier, par donc deux moments importants, une première rencontre des ministres ordonnés, diacres, prêtres, pasteurs, évêques, Monseigneur Legal était là, responsable de communauté, pour présenter en deux volets la question donc du cinquième centenaire jusqu'à aujourd'hui, avec une très brillante présentation par le professeur Philippe Faureau, qui est diacre de l'église diocésaine, donc sur le contexte historique, hein, avec des parallèles tout à fait passionnants sur l'actualité, et puis relayé aussi par une intervention extrêmement intéressante du pasteur donc Andrea qui est là.
On verra le programme plus tard, mais sur voilà. Le sens de cette semaine, à quoi sert-elle cette semaine?
Depuis 1937, donc cette semaine existe, en particulier donc, au niveau mondial, et le but c'est de rappeler avec insistance l'impérieuse nécessité de l'unité qui remonte au commandement du Christ, que tous soient un, comme le Père et moi, nous sommes un. Donc, partout dans le monde, cette semaine voit des conférences, des rencontres, des activités pour rappeler au peuple chrétien l'importance de l'unité, peut-être aussi pour inciter les responsables et les théologiens et les pasteurs à travailler pour cette unité.
Alors, peut-être Mino Randria, sur cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, est-ce qu'elle a le vent en poupe côté protestant? Parce que je pense que je ne mentirais pas en disant que les côtés catholiques, c'est pas forcément quelque chose auquel tout à chacun est très attentif. Est-ce que les protestants y sont davantage attentifs, ou est-ce que ce sont des rencontres assez, comment dire, disparates?
Je dirais que c'est toujours très très bien suivi par les couples catholico-protestants qui sont vraiment engagés là-dedans et qui sont peut-être même parfois actuellement un peu déçus que ça ne soit pas aussi bien ou autant suivi qu'il y a peut-être 30 ans de cela maintenant. Après Vatican II, il y a eu vraiment un engouement. Aujourd'hui, on assiste davantage peut-être à des replis identitaires. La question de l'identité revient en force quand il y a de l'inquiétude ou de la peur dans la société.
Voilà, donc introduction faite, peut-être autre introduction, je le disais au début de cette émission, même si on va revenir dessus, il faut peut-être dire un mot de l'ouverture des célébrations des 500 ans donc, qui ont lieu en Suède, et à cette occasion le pape François a fait le déplacement, voilà, il y a eu évidemment un certain nombre de reportages, c'était un moment en fait assez extraordinaire pour les chrétiens, est-ce que vous pouvez en dire un mot l'un ou l'autre, cette rencontre donc entre le pape François et votre grand chef côté réformé, je vais retrouver son nom pendant que vous répondez à ma question.
Bien, évidemment, c'est un signe extrêmement important qui se situe dans l'action des prédécesseurs immédiats. Bon, le pape Jean-Paul II a eu un très grand rôle dans l'application du Concile œcuménique, bon, Paul VI aussi. Benoît XVI a fait des démarches significatives dans des rencontres, soit de l'archevêque de Canterbury, soit de de prélats orthodoxes, soit de représentants aussi des luthériens. Et là, ça se situait effectivement dans un pays où, jusqu'à une date tout à fait récente, l'église d'État était une église officiellement luthérienne. Donc c'est un des hauts lieux du luthéranisme en ce cinquième centenaire que le pape a voulu honorer par des discours, bien sûr, des déclarations, mais surtout par le signe qu'il a voulu donner en allant rencontrer donc ces églises issues de la réforme luthérienne, de manifester toute son estime pour l'apport doctrinal et spirituel que le meilleur de l'œuvre de Luther a permis à la chrétienté entière de recevoir.
Peut-être Mino Randrea, est-ce que vous avez une réaction sur cette présence du pape qui s'est rendu en Suède?
Je pense que c'est un geste fort, oui, et que il ne faut pas rester dans le chacun pour soi ou défendre son propre clocher. Je crois que le pape François a fait vraiment un geste en direction de l'unité, du dialogue interconfessionnel en tout cas. Et nous, en tant que luthériens, en tant que protestants, on est touchés vraiment. Et j'espère que ça déclenche les mêmes engouements qu'on a trouvés après Vatican II et que qu'on revienne vraiment à cette recherche du dialogue.
Voilà, donc j'ai retrouvé le nom, c'était le pasteur Martin Jung, secrétaire général de la Fédération Luthérienne Mondiale, puisque c'est là-bas qu'est le siège de la Fédération Luthérienne Mondiale, et c'est donc une des raisons de la présence du pape, particulièrement en Suède. Alors, puisqu'on a le temps, on va refaire un petit peu d'histoire. Donc il y a 500 ans, donc Martin Luther affichait ses 95 thèses. Peut-être Mino Randrea, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il affichait sur la porte de cette église, l'église de la Toussaint de Wittenberg?
Je crois que pour faire court...
Vous n'allez pas nous dire les 95 thèses, évidemment.
Non, on ne va pas dire les 95 thèses, mais oui, c'est surtout des thèses contre, je dirais, la simonie que Luther soupçonnait dans...
Alors simonie, l'église. Juste, ça veut dire quoi, peut-être pour ce...
Alors simonie, ça vient de Simon le magicien, qui a essayé d'acheter le salut. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament. Et donc Luther dénonçait la pratique des indulgences à son époque. Ce n'était pas toujours le cas pour les indulgences, mais en tout cas à son époque, voilà, il y avait des pratiques par ce moine qui s'appelle le Tetzel, donc qui essayait de rassembler de l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome. Et donc il disait, quand vous entendrez l'argent teinté dans l'offertoire, eh bien l'âme de votre parent va monter du purgatoire. Et donc par rapport à cela, Luther a rétorqué en travaillant les textes bibliques, notamment les écrits de l'apôtre Paul qui parle de la grâce. Et donc c'est ce que Luther rappelle dans ses 95 thèses, c'est-à-dire la grâce de Dieu nous sauve et il n'y a pas à acheter cette grâce. Ça ne se monnaie pas, c'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement, sans condition. Le mot sans condition ne figure pas dans les 95 thèses, mais voilà, c'est cette idée de l'apôtre Paul comme quoi Dieu nous aime. Il n'y a pas nos œuvres méritoires ne conditionnent pas l'amour de Dieu, la grâce de Dieu.
Les œuvres méritoires, c'est ce qu'on fait, c'est ça, hein?
Voilà, c'est ce qu'on fait en tant qu'être humain, oui.
Est-ce qu'il y avait d'autres grands points dans ces 95 thèses? Donc cette critique des indulgences, la primauté de la foi sur les œuvres. Et est-ce qu'il y avait aussi une critique de la papauté, de la hiérarchie de l'Église?
Dans ces textes, non, j'ai pas vu de critique essentielle. Enfin, je ne les connais pas par cœur, mais c'est surtout l'attaque des indulgences. Par rapport aux indulgences, c'était voilà tout le système de qui accompagne les indulgences, c'est-à-dire aussi l'idée du purgatoire aussi est attaquée.
Donc le purgatoire, faut peut-être dire un tout petit mot pour ceux qui ne connaîtraient pas à l'antenne. Vous pouvez redire en un mot, le père Jacques Rochy, quelle est la foi de l'Église sur le purgatoire?
Alors, le purgatoire, c'est une création relativement récente qui d'ailleurs fait partie de nos divergences avec aussi les chrétiens orthodoxes. C'est l'idée que la miséricorde de Dieu est telle que on peut se trouver au moment de la mort dans un état plus ou moins confus, où on n'a pas peut-être suffisamment de acquis, enfin, ou reçu le salut pour pouvoir arriver directement au paradis, mais la miséricorde de Dieu peut faire que si on n'est pas tout à fait prêt, eh bien, il puisse y avoir une sorte de... Alors de on pense ça évidemment en termes de temps, ce qui est inexact, puisque quand on meurt, on sort du temps, mais enfin, une sorte d'état un peu où on peut se préparer à la pleine vision de Dieu. Et donc, c'est sur ce moment de progression encore possible, mais possible, impossible à celui qui est dans cet état. Il faut donc que la communauté de l'Église, parce que là, qu'on va être aussi l'idée de la communion des saints, de la réversibilité des mérites, ou de même qu'on s'entraide quand on est sur la terre, eh bien, par-delà le mur de la mort, grâce bien sûr au mérite acquis par le Christ, l'Église qui reçoit dans le trésor du Christ, la gestion en quelque sorte de cette miséricorde, peut appliquer aux défunts les mérites des vivants.
Voilà, précision faite sur le purgatoire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les 95 thèses ou peut-être expliquer le contexte? Vous me disiez en préparation que c'était très important de préciser un certain nombre de choses.
Vous avez dévoilé une partie importante du contexte.
Vous insistiez en préparant l'émission, le premier point, c'est la découverte du nouveau monde.
Voilà.
Et donc c'est une époque très singulière.
C'est la dilatation du monde, c'est un peu comme la mondialisation aujourd'hui. Le vieux monde craque de partout parce qu'on découvre l'Amérique, parce qu'on découvre aussi les îles, on commence à inventorier aussi le déploiement en Asie, et donc le vieux monde craque, on va trouver de nouvelles humanités, on va se demander d'ailleurs si les Indiens d'Amérique en particulier ont une âme. Est-ce qu'on peut les baptiser? Bon, il y a la fameuse controverse de Valladolid, et donc des condisciples que oui, bien, Philippe Fouron nous disait hier que les prêtres baptisaient jusqu'à 15 000 Indiens par jour. Avait mal au poignet et à l'épaule. Et c'était l'obsession du salut, en reprenant les aspects peut-être un peu contestables de saint Augustin, où il fallait absolument que les gens soient baptisés pour être sauvés. Donc, voilà. Alors ensuite, il y a une autre dilatation du monde, alors qui est culturelle et qui est infiniment plus importante, en particulier pour la redécouverte du contenu de la Bible.
C'est la Renaissance, c'est
ça? La Renaissance, l'humanisme. Donc, on redécouvre l'Antiquité. Donc, il va y avoir évidemment beaucoup de conséquences dans l'art, dans les productions artistiques, où on va essayer d'imiter l'Antique. Et ça va faire partie d'ailleurs de ces dépenses, en plus de Saint-Pierre de Rome, des princes de l'Église, pour être, si vous voulez, dans cette mouvance. Alors, on va redécouvrir les langues, évidemment, l'hébreu, le grec, et cela va donner un très grand mouvement de retrouvailles avec la culture.
Et quel lien ça peut avoir avec la réforme? C'est que du coup, c'est quoi? Ça aiguise l'esprit critique?
Ça va surtout faire sortir l'interprétation biblique de l'étroite lecture du texte seulement latin. Beaucoup de la doctrine s'était développée, on avait perdu un peu le contact avec l'Orient, et donc la chrétienté s'était repliée sur une latinité. Et donc tout était pensé uniquement à partir de la langue latine. Et donc on va redécouvrir, enfin, à une grande échelle, il y a toujours eu quelques grands esprits qui connaissaient un petit peu l'hébreu, parce qu'il y avait quand même des juifs parmi nous, et qui avaient une petite idée du grec. Enfin là, on va vraiment redécouvrir l'ampleur de la culture antique, on va découvrir la démocratie athénienne, et ça va avoir aussi des impacts sur le modèle politique, et on va surtout avoir un outil d'interprétation de l'écriture beaucoup plus large, qui va être encore dilaté avec l'imprimerie.
Donc on va avoir puisque il faut préciser, donc c'est l'époque de l'apparition de l'imprimerie.
C'est l'époque de l'apparition de l'imprimerie. Jusque-là, un livre était infiniment cher et très peu répandu. Tandis que là, avec l'imprimerie, alors les premières traductions de la Bible par Luther, je crois, vont être faites à 300 000 exemplaires. Et il va y avoir aussi une transmission par la traduction en langue vulgaire. Jusque-là, la Bible n'était accessible qu'à ceux qui lisaient le latin. Donc, à travers les prédicateurs, ce texte écrit va être aussi transmis à des millions d'analphabètes qui vont avoir un accès plus personnel au texte, avec une proposition d'interprétation plus grande, et surtout avec le libre examen, chacun va pouvoir avoir un accès direct au texte.
Alors les deux autres points que vous vouliez souligner aussi, c'était le contexte politique, puisqu'il y avait, semble-t-il, l'émergence de différents nationalismes.
Aujourd'hui
et puis c'est une époque où on vivait beaucoup dans la peur.
C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les nationalismes. Donc l'Empire romain germanique est plein de... Donc, il y a 470 États, je crois. On va accéder à une conscience qu'on appellerait aujourd'hui un peu conscience nationale. Bon, le royaume de France est constitué aussi en marge. Donc, le roi est empereur dans son royaume. Mais il y a une sorte de conscience culturelle d'appartenir à la nation allemande qui s'éveille. Et lorsque Luther va traduire la Bible en allemand, ça va être la naissance du Hochdeutsch, je crois, de la langue classique allemande, et donc une prise de conscience aussi nationale. Et il y a aussi un aspect tout à fait important par rapport à la papauté. Donc, il y avait un certain nombre de dispositifs, n'entrons pas dans les détails, la fiscalité pontificale avait donc puiser ses ressources, en particulier lorsque un évêché était vacant. Or, lorsque les princes allemands vont se substituer, en quelque sorte, la fiscalité qui allait jusque-là à l'Église va venir à eux.
Donc, il y a tout un
aspect, si vous voulez, économique aussi. Hein, donc, la papauté va perdre un petit peu, non seulement de son impact à cause du grand schisme. Donc, vous savez, il y a eu deux ou trois papes en même temps, la papauté est discréditée, en particulier aussi par le...
Alors peut-être sur l'état de l'Église, on peut peut-être interroger Rino Mandria. Donc les derniers éléments de contexte, donc il y a cette découverte du Nouveau Monde, la Renaissance, avec la redécouverte, vous dites, de la culture grecque, l'émergence de nationalisme, donc l'état de l'Église. Quel était l'état de l'Église peut-être à l'époque et qui a justifié aussi, qui peut expliquer, ces prises d'opposition de Luther?
Alors donc, on a découvert, Luther est parti à faire un voyage à Rome en 1511. Beaucoup pensent peut-être encore aujourd'hui que c'était ce qui a déclenché un peu sa recherche d'une autre voie, de sa volonté de réformer son Église. Oui, effectivement, ce qu'il a découvert était, il le dit à différents moments dans ses écrits, c'était la dépravation morale de cette Église et des dirigeants de cette Église. Il y a eu des papes qui avaient des enfants, le pape Paul III en avait trois, et bien d'autres. Et puis, mais je pense que si on entre dans le contexte plus précis des 95 thèses, à l'époque où il a écrit ses thèses, il était encore dans son Église et il voulait vraiment faire du bien à son Église, alors que l'excommunication vient 4 ans après, 3 ans après, en 1520, 1521, en 1517, il disait encore « sont ennemis du Christ et du pape, ceux qui prêchent les indulgences et interdisent la prédication de la parole de Dieu dans d'autres lieux ». Donc il défendait le pape encore en 1517, il y croyait encore à ce moment-là, mais après la bulle d'excommunication en 1520, décembre 1520, il était... il a brûlé la bulle papale et il a commencé à dire des méchancetés, vraiment vis-à-vis des dirigeants de l'Église, vis-à-vis du pape, des propos vraiment très très dur.
Alors on va faire une première pause musicale et puis après on va voir aussi quels étaient les objets plus profonds du différent entre Luther et donc entre les protestants et les catholiques, voir le chemin qui a été parcouru peut-être au long des siècles, semble-t-il qu'il s'est accéléré au XXe siècle, et puis parler de cette fameuse déclaration de 1999, on en a déjà parlé, ça fait un peu court d'histoire, mais c'est une déclaration fondamentale puisque c'est pas la résolution du conflit, mais en tout cas le début d'un nouveau chemin entre protestants et catholiques.
Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission ce matin donc sur les 500 ans de la réforme à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et oui, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques, puisque c'est peut-être surtout des catholiques qui nous écoutent, quoique j'espère qu'il y a aussi des protestants. On n'est pas toujours au courant, mais c'est une semaine qui est importante. On en reparlera peut-être à la fin de cette émission. Pour introduire cette seconde partie, je rappelle que nous sommes avec Mino Randria. Vous êtes pasteur de l'église protestante unie, ici à Toulouse, et le père Jean-Jacques Rouchy. Vous êtes délégué diocésain au dialogue œcuménique. Je recite quelques passages des déclarations du pape François, donc qui s'est rendu, je le rappelle, je le disais au début de cette émission, on le rappelait au début de cette émission, en Suède, à l'occasion donc des 500 ans de la réforme, le fin octobre, début novembre dernier. Voilà, voyage historique. Et à l'occasion de ce voyage, le pape François a dit, entre autres, « Nous devons regarder avec amour et honnêteté notre passé, reconnaître la faute et demander pardon », a insisté le pape, et plus loin il a exprimé sa gratitude. Il reconnaît que la réforme a contribué à donner une meilleure centralité de la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Voilà des paroles évidemment extrêmement fortes et d'une grande portée. Puisqu'on était en train de faire une page d'histoire, on va dire hier et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous redire quels ont été les objets des différents, ou quelles sont les différences qui demeurent? La première, même si on va voir qu'il y a du chemin qui a été fait sur ce sujet, c'est donc la question de la foi et des œuvres. Alors on avait déjà fait une émission l'année dernière sur ce sujet avec le père Rouchy, mais tout le monde n'écoute pas Vivante Église tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous refaire une précision, père Jean-Jacques Rouchy, peut-être sur cette notion de foi et des œuvres?
Oui, alors avant cela, peut-être rappeler qu'à l'époque, il y avait une terrible obsession de la mort et une grande angoisse par rapport au salut. Il y avait les grandes pestes, il y avait beaucoup de guerres, et toute la population était véritablement obsédée par le fait de mourir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de pouvoir se préparer à la mort. Et tout un dispositif par rapport justement aux indulgences. Pourquoi les indulgences? Pour bien passer la véritable obsession de la mort et du salut, provoquer de la part des vivants le désir et la nécessité de pourvoir aux besoins des défunts. Donc en faisant célébrer des messes et en faisant des bonnes œuvres, mais aussi, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, avec un apport financier qui va permettre tous les abus qui ont été signalés. Donc la question du salut par la foi ou par les œuvres va être tout à fait prégnante, et Luther va insister par rapport justement à tout ce dévoiement, cette instrumentalisation du salut pour des raisons financières, enfin, avec des conséquences financières, va au contraire l'amener à purifier le regard sur le salut. On n'est pas sauvé par ses propres œuvres, le salut est toujours gratuit et on est sauvé par la foi. Alors comment se déroule ce salut par la foi? La foi de qui? La foi en qui? Comment la foi peut transformer la destinée humaine? Quel est l'impact de la foi? Enfin, là, le pasteur...
Mais Léandria, peut-être rapidement sur ce sujet.
Alors donc Luther a découvert dans la Bible, c'est là que se joue vraiment ce qu'il appelle le sola scriptura, c'est-à-dire l'importance des Écritures. C'est en revenant aux Écritures qu'il découvre que finalement l'angoisse, l'inquiétude de ses contemporains n'ont pas lieu d'être, parce qu'il y a la grâce première de Dieu. La grâce précède nos inquiétudes, nos peurs, nos fautes. La grâce peut couvrir nos manquements, nos limites, l'insuffisance de nos œuvres. Il a essayé de se parfaire dans son cheminement de chrétien en pratiquant toutes les exigences de la loi, de la règle. Il était moine augustin, mais il a toujours été travaillé par cette angoisse en découvrant qu'en étant honnête avec lui-même, en essayant d'être honnête avec lui-même, il n'y arrive pas. Et donc chez Paul, notamment, dans les écrits de l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 7, il a découvert cette fameuse phrase de l'apôtre Paul qui dit « Ce n'est pas le bien que je veux que je fais, c'est le mal que je ne veux pas que je fais. » Et donc c'est en rapport à la loi. Il y a la loi qui dit ce que je suis, en réalité, c'est-à-dire avec mes limites, avec mon incapacité à ne pas convoiter. La loi dit « tu ne convoiteras pas » et je continue quand même à convoiter, quand bien même ma volonté est bien convaincue de ne plus convoiter, parce que c'est, j'essaie de conformer ma volonté à la volonté divine, et bien dans les faits, dans la pratique, je continue à convoiter. Et ça, c'était l'angoisse de Luther. Je vais être jugé, je vais être condamné. La loi condamne mon péché, mes fautes. Et tout d'un coup, il découvre que ce n'est pas finalement les œuvres, ce qu'il fait, ce qu'il donne, ce qu'il sacrifie, ce n'est pas ça qui va conditionner la déclaration de Dieu qui le déclare juste. C'est plutôt la grâce de Dieu qui est donnée par le moyen de la foi. Mais il complète la foi du Christ. Et c'est encore en étudiant les écrits de Paul qu'il découvre ça. C'est la foi du Christ d'abord.
La foi du Christ. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que autant peut-être le contexte que vous décriviez, c'est-à-dire un contexte de découverte du nouveau monde, de mondialisation, peut-être de d'essor des nationalismes. Alors vous compariez ça avec peut-être certains mouvements politiques en Europe. Le souci du salut, on peut pas dire là qu'on puisse faire un grand parallèle avec notre époque contemporaine. On croise pas
et
beaucoup de gens qui
pas.
Sont angoissés par
je
la question du salut.
Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse.
Le seul terme de salut.
Voilà, il y a beaucoup de peur aujourd'hui. Et effectivement, si la peur n'est pas aussi consciemment orientée vers la destinée après la mort, il y a quand même une sorte de transfert du statut individuel au statut de la planète, par exemple, ou au statut des populations. Nous sommes dans la peur des attentats. Nous sommes dans la peur d'une victoire des nationalismes. Il y a des peurs tout à fait irrationnelles qui vont justifier un peu, enfin, qui vont sous-tendre des attitudes racistes.
Ma remarque, c'était davantage sur la question du salut. On croise pas beaucoup de gens aujourd'hui qui sont angoissés par la question du salut, à se demander s'ils vont être sauvés ou pas.
Pas le salut de leur âme. Mais le devenir de la planète, le devenir de tous les parents sont anxieux devant le devenir de leurs enfants.
Et puis il y a aussi, je dirais, pardon, excusez-moi, je rajoute que aujourd'hui il y a peut-être une actualisation de la question du salut par la quête de l'identité, la quête du sens de la vie. C'est-à-dire que les gens sont inquiets parce qu'ils ne découvrent plus de sens à leur vie, ou ils sont
de repères.
N'ont plus de repères, ils sont dans le repli identitaire parce qu'ils voient qu'ils découvrent qu'il manque quelque chose sur lequel appuyer sur leur identité. Et là-dessus, je pense que le salut peut être vraiment la justification par la grâce, par le moyen de la foi, peut avoir un sens par rapport à on va pas l'appeler salut, mais en tout cas par rapport à cette quête-là.
Et en poursuivant un petit peu sur ce thème, justement, ne sachant pas qui on est, on va accueillir avec reconnaissance une identité toute faite que va vous donner, par exemple, une loi religieuse. Ou, Daesh va donner à quelqu'un qui est complètement perdu, qui n'a aucune valeur, eh bien, l'illusion que là, on va se trouver soi-même. Et c'est une forme de salut, évidemment, complètement dévoyée. Donc, aussi, il y a un aspect un rapport entre notre postmodernité et cette époque-là.
Alors, peut-être on parlera en fait différences justement entre autres donc le sens de l'Église, l'organisation de l'Église et les sacrements un petit peu plus tard, peut-être dans le chemin qu'il reste à parcourir vers une unité pleine et entière. Après, ce qu'il faut désirer une unité pleine et entière, c'est une vraie question. Je voulais qu'on parle maintenant de peut-être un peu l'historique du dialogue, puisque donc il y a eu ce grand schisme avec les conséquences que l'on connaît, et aujourd'hui donc évidemment cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le temps est au dialogue, et vous me disiez en préparant cette émission qu'en fait le dialogue est assez récent, et voire même qu'il daterait du début du XXe siècle. Alors ça paraît un peu fou. Comment on peut expliquer que on se soit d'abord aussi longtemps divisé avant d'avoir cherché
L'impact de la rupture initiale a été extrêmement fort. Et les uns les autres se sont bloqués justement sur un repli identitaire en considérant que chacun avait totalement raison et que l'autre avait totalement tort. Et donc il n'y a pas de dialogue possible jusqu'à ce que sur le terrain, en particulier sur le terrain missionnaire, on s'aperçoive de l'aspect catastrophique de la division des églises sur l'annonce de l'évangile à ceux qui ne l'avaient pas encore reçu.
Par exemple, c'est-à-dire c'était où
Mais par exemple, des missionnaires catholiques, des missionnaires méthodistes en particulier, ou luthéro-réformés en Afrique en particulier, donc s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas en rester à cette vision. Et les néophytes qui recevaient l'annonce de l'Évangile mettaient le doigt justement sur l'incohérence de missionnaires qui parlaient d'amour, qui parlaient de salut, et avec justement des attitudes absolument contradictoires avec ce qu'ils annonçaient.
Et vous dites que ça date du début du XXe siècle, c'est ça?
Alors, le début du XXe siècle, ça va être quand même au terme d'une première prise de conscience. Bon, il va y avoir des rencontres qui vont devenir un petit peu officielles, enfin, à partir de 1910 en particulier. En 1921, il y aura donc un Conseil international des missions. En 1927, donc, le texte Foi et Constitution. Et c'est surtout après le Concile Vatican II. Alors, il y aura aussi des pionniers du dialogue, hein. Il y aura donc avec les Anglicans, dont Lord Halifax et l'abbé Portal. Il y aura aussi l'abbé Couturier, bien sûr, à partir des années 30. Et la semaine de l'unité date, je crois, de 1933. Mais évidemment, la guerre va interrompre un petit peu tout ça. Et ce sera surtout après Vatican II que la question va être envisagée. Donc dans l'ensemble de la réforme de l'Église, il y aura des documents conciliaires, dont un qui va être consacré à l'écuménisme, et dans les trois grandes constitutions conciliaires, donc sur l'Église, la révélation divine et la liturgie même, il y aura beaucoup de considérations sur l'écuménisme et sur la nécessité donc d'avancer ensemble vers l'unité.
Et puis, il y a donc en 1999, alors fruit de ce dialogue... Hein,
plus, bon, le groupe des Dômes, enfin, il y a un certain nombre d'instances plutôt de spécialistes, hein, qui vont se rencontrer, à la fois des pasteurs mandatés par l'Église et par les fédérations protestantes, pour justement avancer sur le plan théologique, exégétique, pour... non pas comme on avait essayé de le faire, se réduire l'un à l'autre, mais pour reconnaître que chacun a eu des torts, en particulier dans les attitudes, et peut-être même que la façon dont l'autre présente les choses a quelque chose d'intéressant pour me faire découvrir ma propre foi, des aspects que je n'avais pas vus. Alors, je reprends deux minutes. On est sauvé par la foi du Christ. Alors, en général, on dit on est sauvé par la foi au Christ. Bien non, Luther dit on est sauvé par la foi du Christ. C'est-à-dire que je peux mettre ma foi dans le Christ parce que le Christ sur la croix a mis entièrement sa foi en le Père. C'est donc cette foi du Christ qui rend crédible ce salut, et je peux faire confiance à celui qui a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Alors ça, c'est extraordinaire. Si on va, grâce à Luther, on va redécouvrir cet aspect qui n'avait pas été forcément très mis en valeur dans le catholicisme.
Et donc cette déclaration de 1999, peut-être pouvez-vous nous en parler, donc Mino Randria, enfin vous allez nous en parler, déclaration donc commune sur la justification par la foi. Donc on en a parlé, on a fait même, je crois, plus ou moins une émission là-dessus, Père Jean-Jacques Rouchy, en tout cas l'année dernière, qui est mal connue, donc il faut en parler et en reparler. C'est une déclaration vraiment historique, puisqu'en fait, les catholiques et les protestants se sont mis d'accord sur une formulation sur la justification par la foi, ce dont on a parlé précédemment, enfin sur l'important, le salut qui est d'abord donné, on va dire, par Dieu et par la foi. Enfin voilà, on a trouvé un terrain d'entente, donc fin de la dispute, j'ai envie de dire, fin des déchirements.
Oui, on peut dire que effectivement c'est vraiment une grande avancée, je dirais, dans le dialogue interconfessionnel entre luthériens et catholiques. Et peut-être c'est bien de rappeler un peu l'origine. Enfin, il s'agit de la thèse de Hans Küng en 1957. Donc, on est vraiment dans l'ère de la
théologien
très connu. Préparation de Vatican II. Il écrit sa thèse. Dans sa thèse, il dit cette phrase: il n'y a pas de séparation dans la foi, mais différence d'accent et de langage. Je crois que sa phrase résume très bien tout l'ensemble de la déclaration. Et 10 ans après, donc à partir de 1967, on est dans cette période vraiment d'engouement, de recherche d'unité, à la suite de la prière du Christ lui-même, que tous soient un comme toi et moi nous sommes un, adressé à son Père. Et donc,
Qu'est-ce qu'il y a dans cette déclaration alors ? Qu'est-ce qu'elle dit cette déclaration ?
Alors, grosso modo, on peut résumer la déclaration comme ça, c'est-à-dire qu'il y a...
Oui, parce que la déclaration, elle fait quand même 4-5 pages. Hein, c'est...
Oui, oui, il y a 44 paragraphes,
c'est
44 articles.
C'est pas 4 lignes. Hein, c'est...
on va résumer ça très, 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 très... Enfin, on va essayer de manière très simple. Alors, donc, ça dit qu'il y a un accord sur le fond, sur la doctrine elle-même de la justification par la foi. C'est-à-dire par grâce, par le moyen de la foi. Là-dessus, il y a un accord. Il peut y avoir différentes formulations selon qu'on soit du côté luthérien ou du côté catholique. Mais ces différences ne sont plus suffisantes pour maintenir les condamnations, les anathèmes du XVIe siècle. Voilà. En gros, ce que dit la déclaration commune. Après, donc...
Ça veut dire que donc, les anathèmes et les excommunications ont été levés aussi. C'est...
Exactement. C'est ce que proposait la déclaration commune. Après, les réactions étaient plutôt vives. Alors, du côté luthérien, il y a eu dans 90% des 124 églises membres de la Fédération luthérienne mondiale qui ont accepté. Il y a 10% qui ont dit non. Du côté, la réaction était plutôt vive, plutôt surtout du côté catholique, notamment la plupart des églises du tiers-monde. Alors la réticence vient de ce fait que dans le texte même, on reprend l'expression de Luther, 100% pécheur, 100% déclaré juste. C'est contre les textes du magistère.
Et donc, c'est-à-dire
que dans les textes, notamment dans le catéchisme de l'Église catholique, la justice, elle est aussi mienne, c'est-à-dire que je participe à la grâce divine. Il y a une grâce qui est donnée, mais il faut que je participe de manière méritoire par mes œuvres pour avancer dans cette foi qui est la mienne.
Est-ce que c'est pas une interprétation c'est Luther qui a gagné.
Il y a rien. Du côté catholique, ce que vient de dire le pasteur est tout à fait acceptable. Simplement, il y a deux aspects dont Luther disait on est tout entier pécheur et tout entier déclaré juste. Donc, quel est l'impact de la grâce qui sauve sur l'état du pécheur ? Donc, la doctrine catholique considère que la grâce est capable de transformer le pécheur et donc de le justifier, pas seulement pour son salut final, mais cette justification va avoir un aspect d'amélioration du pécheur qui va, par la grâce bien sûr, ou du moins à l'origine, c'est la grâce qui a l'initiative, mais il va y avoir premièrement une amélioration du pécheur qui va l'être un peu moins, bien sûr par la grâce, mais enfin il va y avoir une sorte de synergie, d'action commune l'homme va accepter le salut, c'est-à-dire le salut ne peut être donné que par le Christ, on est absolument d'accord, mais il faut que le salut soit accueilli. Alors le salut est accueilli par la foi, nous sommes absolument d'accord, c'est la foi qui nous justifie, qui nous rend juste, on ne se rend pas juste soi-même, ce n'est pas les œuvres qui achètent le salut est toujours absolument gratuit, mais quelles vont être les conséquences pratiques de ce salut dans la vie actuelle ? Et là, l'Église catholique va insister depuis toujours sur cette notion de mérite en disant que le salut ayant besoin d'être accueilli, bon, il y a les deux natures du Christ, la nature humaine et la nature divine, donc il y a une action des deux qui fait le ministère du Christ et le salut apporté par le Christ, et donc de la même manière, puisque dans le Christ, la divinité et l'humanité cohabitent sans division, sans mélange, sans séparation et sans changement, eh bien, il va y avoir une interaction qui va provoquer, toujours bien sûr à l'initiative de la grâce, une amélioration du pécheur, donc on ne peut pas dire qu'il reste 100% pécheur, et un effet de transformation de la vie. Voilà.
Thank you. Vacances à Salise du Salat, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église sur les 500 ans de la Réforme à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Semaine donc qui court du combien au combien, Père Jean-Jacques Rouchy ? Elle court de quand à quand cette semaine ?
Alors, la semaine a commencé en fait mardi et elle se terminera dimanche.
Voilà, et vous nous donnerez à la fin de cette émission les grands rendez-vous qui restent. La question qu'on a envie de vous poser, c'est, voilà, on le disait, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, on ne peut pas dire que toutes les églises soient mobilisées, que tout le monde prie, se rencontre, voilà, et qu'il y a une grande ferveur, un grand désir d'unité, de rencontre. Est-ce que ça ne tient pas aussi au fait, justement, qu'on peut avoir le sentiment que, dans le fond, nos différences se sont estompées au fil du temps et que du coup, cette prière pour l'unité des chrétiens n'a plus le même caractère d'urgence. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Père Jean-Jacques?
Alors, il y a d'abord le contexte actuel où le curseur est mis plutôt sur l'interreligieux, avec, bon, il ne faut pas se le cacher, tous les problèmes qui viennent d'interprétations particulières de l'islam. Et donc on est surtout préoccupé du vivre ensemble, et même les politiques commencent à prendre conscience de l'importance de l'interreligieux. Donc à ce moment-là, l'interchrétien devient un peu plus, un peu moins objet d'intérêt. D'autre part, c'est vrai, les églises sont plus préoccupées du devenir de la foi, de l'annonce de l'évangile, et donc on a un petit peu perdu d'abord le désir du Christ que tout soit un, et surtout les personnes se sentent impuissantes. Que pouvons-nous faire devant ce genre de choses? Et c'est très dommage, parce que chaque âme qui s'élève élève le monde, et donc l'essentiel est ce que dit le pape François, c'est quel regard on va porter sur l'autre chrétien. Est-ce que c'est un frère? Et c'est par là aussi que va progresser l'unité, et par le service commun de l'homme, par la diaconie. Mais pour cela, il faut que nous ayons un regard bienveillant sur l'autre, que nous connaissions mieux nos différences, à la fois pour savoir pourquoi nous sommes catholiques, pourquoi nous sommes protestants, ce que nous pouvons nous apporter mutuellement, et comment nous pouvons quand même résoudre un certain nombre de problèmes qui continuent de se poser et qui empêchent la bonne diffusion et la bonne vie selon l'Évangile.
Alors justement, s'il y a encore un chemin d'unité à faire, deux questions dans ces cas-là: à quoi ressemblerait cette unité? Parce que c'est vrai que côté catholique, pendant longtemps, l'unité, ça signifiait qu'on espérait qu'un jour les protestants redeviennent catholiques.
Tout à fait. Redintegratio unitatis.
Voilà. Donc, semble-t-il, c'est différent aujourd'hui. Alors, donc, à quoi ressemblerait cette unité? Et puis, quels sont les points, les sujets sur lesquels, en fait, il y a encore du chemin à parcourir?
Un aspect essentiel de cette question, et dans la suite de ce que nous venons de dire, nous commençons à admettre que nous pouvons avoir la même foi sans utiliser les mêmes mots. Parce qu'il y avait une obsession du côté catholique, c'est depuis très longtemps, sur la rectitude de l'expression de la foi. C'est la foi qui sauve, et on avait un peu tendance à dire c'est la doctrine qui sauve. Donc si je m'écarte de la formulation exacte de la doctrine, je ne suis plus dans la foi. Et on commence à ça. Alors quand nous avons parlé ensemble, depuis donc quand même au moins Vatican II, on se rend compte qu'évidemment Luther va insister sur la grâce. Peut-être que nous, on n'insiste pas assez sur la grâce. Nous avons, puisque Luther disait « sola gratia », on disait « mais attention, il y a aussi les œuvres ». Bon, donc on va se dire les uns les autres, mais finalement, Luther nous invite à être plus attentifs à l'initiative absolue de la grâce, mais que peut-être l'Église catholique invite gentiment et fraternellement les protestants à revoir un petit peu, étant sauve la certitude absolue que c'est la grâce qui sauve, que peut-être la participation de l'homme est un petit peu minorée dans la façon de voir.
Donc ça veut dire que cette unité, donc, en fait,
on a plusieurs,
c'est l'unité formules. Dans la diversité maintenant, c'est
unité,
ça c'est...
Enfin, unité non, sur le fond, et justement c'est le cœur de 1999, comme l'a dit le pasteur, sur le fond nous sommes d'accord. Mais il peut y avoir plusieurs formulations. Et surtout, on peut admettre que les uns et les autres, eh bien, ont insisté sur un aspect de l'unique foi, et nous avons peut-être à progresser pour voir ce qui, dans l'autre, vient compléter ma foi.
Sur les points qui restent, donc on a compris donc le chemin d'unité, on va dire, est très très bien engagé. Maintenant, on a l'impression que c'est, à vous entendre, c'est un chemin voilà, fraternel de découverte des richesses de chacun. En tout cas, on peut l'espérer comme ça. Quels sont les points sur lesquels, en fait, il y a encore du chemin à faire? Je crois qu'on cite souvent en fait, ce qu'on appelle l'ecclésiologie, c'est-à-dire la manière d'être en église. Et puis, en tout cas, la presse citait beaucoup la question des sacrements, et entre autres les problèmes que ça pose pour les couples mixtes que vous citiez au début de cette émission, qui sont à la fois protestants et catholiques.
Oui.
Milan Andrien.
Pour ce qui concerne l'ecclésiologie, c'est-à-dire ce qu'on peut dire concernant l'Église, je pense que l'une des différences principales se situe dans ce qu'on appelle le corps du Christ, corps mystique du Christ. Pour Luther et pour les luthériens encore aujourd'hui, le corps mystique du Christ est invisible. Dieu seul connaît les membres de cette Église qui est corps du Christ, qui est donc l'Église sainte, une.
Et ça veut dire quoi en fait? Que Dieu seul les connaît?
Dieu seul les connaît, c'est-à-dire que c'est l'assemblée de ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont déclarés justes, ceux qui sont dans la relation de foi avec Dieu. Une institution ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans le cœur d'un fidèle. Et donc l'institution ne peut pas dire « toi tu y es, toi tu n'y es pas ». Et aussi surtout que donc ce n'est pas la sainteté de la communauté ou la rectitude doctrinale de la communauté qui va faire ce qu'est l'Église. C'est la relation de chacun avec Dieu. Ce n'est pas non plus... L'apostolicité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des ministres conformes à une certaine règle, une certaine tradition.
Dans une succession ininterrompue.
Succession ininterrompue. Ce n'est pas ça qui va faire vraiment l'Église, c'est le peuple de Dieu qui est constitué par tous ces gens qui font partie de la famille de Dieu. Et ces gens-là, ces membres-là, ces fidèles-là, eh bien, finalement, Dieu seul connaît ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et du coup, cette Église, elle est visible, elle est créée. Alors, Luther dit cette fameuse phrase, elle est créée, c'est un événement qui est créé par la parole de Dieu. Elle a lieu quand la parole de Dieu est droitement prêchée et les sacrements correctement administrés. Et donc, c'est un événement. Et par contre, après, d'après Luther, il faut s'organiser, il faut que l'Église soit visible pour qu'elle soit voilà, témoin dans le monde, dans la diaconie, dans la prédication d'une bonne nouvelle pour la société. Cette Église doit être visible, et là, il faut s'organiser. Et cette Église est humaine, dit Luther. Elle n'est pas le corps mystique du Christ, elle est humaine.
Peut-être un mot sur les...
On retrouve inversé ce que disait Luther pour l'homme. C'est-à-dire, nous disons que l'Église institutionnelle, l'Église visible et le corps du Christ, elle est sainte et constituée de pécheurs. Alors là, on peut dire 100% pécheur, 100% sauvé, mais le péché de l'Église visible, organisé, structuré, hiérarchique, avec la succession apostolique, ne l'empêche pas d'être le corps mystique, en sachant que la frontière de l'Église, elle passe dans le cœur de chaque personne. Et donc là, il y a une sorte de refus de dissocier absolument l'institution avec son organisation et le corps mystique.
Voilà, donc il y aurait plein d'autres sujets dont on aurait pu parler. Donc c'est les sacrements, entre autres les problèmes que ça pose donc, pour les couples mixtes. Mais on en reparlera, c'est l'avantage, c'est un sujet sur lequel on revient. Peut-être pour finir, Père Rouchy, rapidement, en une minute, même pas, les prochains rendez-vous de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Ce soir, un concert, Église de la Lande, 20h30, les Cordes d'Argent de Saint-Pétersbourg et d'autres.
À Toulouse.
Demain soir, Église Sainte-Claire, au fond de l'avenue Raymond-Nave, la prière de l'association catholique orthodoxe roumain. Surtout dimanche, à partir de 13h, au temple de la rue Pargaminière, coin de la place du Capitole, repas partagé fraternel et un temps à la fois la fête de l'unité, de célébration et d'atelier pour justement s'approprier les derniers progrès de la Carta Ecumenica, donc de 2001-2003.
Voilà, donc autre sujet, cette carte à œcuménica, il faudra que vous, on vous réinviterait pour vous nous expliquer de quoi il s'agit. Merci beaucoup en tout cas à nos invités d'être venus, merci pasteur Mino Randria, et que les pasteurs soient évidemment, les protestants soient évidemment les bienvenus dans cette émission Vivante Église, comme sur l'antenne de Radio Présence. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.